Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Sirgue et Ricardo Baroni. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du cyclisme avec la fin du Tour de France et de la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique. Nous verrons après la pub les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. On va commencer avec vous Grégory Sirgue et la Formule 1. Piastri était un peu en dedans depuis quelques Grands Prix, il a repris sa marche en avant. Même si tout n'a pas été parfait sur ce week-end, mais en tout cas, il s'est imposé à Spa devant son coéquipier Lando Norris.
Lando Norris qui est resté sur deux doublés, c'est-à-dire la pole plus la victoire, donc aux deux derniers Grands Prix. Et bah, cette fois-ci, ça a plus souri à Piastri, bien que Norris ait quand même fait la pole position. Le Grand Prix était un peu particulier puisqu'il a mis très longtemps à se lancer, 1h20 après l'heure prévue. Voilà. En fait, il faut savoir que quand il y a des conditions de sécurité qui sont mauvaises, on va dire, il y a une réunion de la direction de course et des commissaires sportifs pour donner ou non le départ, puisque le but, c'est quand même de préserver la sécurité des pilotes. Maintenant, ça faisait un peu débat aussi parce que les pilotes ont des pneus pluie qu'ils ne souhaitent pas forcément utiliser, alors que s'ils les mettaient, on pourrait potentiellement donner le départ dans certaines conditions où aujourd'hui on ne le fait pas. Donc il y a le début de course qui a été marqué par ça. C'est parti sous voiture de sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un départ arrêté. Et juste en fait, le fait de course, c'est vraiment à la reprise, juste à l'effacement de la voiture de sécurité. Norris, quand il se lance, a un manque de puissance et Piastri le passe, il l'avale complètement et derrière il a fait cavalier seul en tête toute la course. Quoi.
Donc c'est la sixième victoire de la saison pour l'Australien qui reprend un peu d'avance au championnat du monde, on le verra tout à l'heure. Finalement, celui qui a animé la course, c'est Lewis Hamilton.
C'est ça.
Qui est parti très très loin sur la grille, 18e.
Ah, il s'est vraiment compliqué la vie puisqu'il part 18e et il finit,
7e.
Je ne vais pas dire d'erreur, 7e. Donc remonter quand même 11 positions, c'est pas rien. Et on se dit que peut-être que s'il était parti plus avant, il aurait pu espérer un podium à la fin parce que, dans le fond, il a fait quand même une belle course et c'est dommage. Quoi.
Voilà, c'est dommage de partir de la 18e place. On a Leclerc donc, qui fait 3e sur ce Grand Prix, Verstappen 4e, Verstappen qui avait gagné la course sprint du samedi.
Tout à fait.
Donc il avait quand même montré que c'est un petit peu mieux en ce moment avec la Red Bull.
C'est un petit peu mieux pour lui parce qu'on a quand même son coéquipier Tsunoda qui, une fois de plus, finit pas dans les points. Donc Ça reste quand même compliqué. Ça permet d'éviter les points marqués, de se faire trop distancer par Mercedes aussi, puisque Russell est juste collé derrière.
C'est ça, Russell qui fait 5e
dans ses roues et Mercedes qui est juste devant au classement constructeur. Donc il faut pas non plus trop les distancer en course.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Nos Français, on a Ocon 15e. Alors on a Pierre Gasly 10e. J'ai oublié Pierre Gasly.
Oui,
10e,
qui marque un point.
Un
c'est
point
la
important.
Deuxième fois à la suite qui marque des points. C'est à noter. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ocon qui n'en marque pas.
15e.
Et Hadjar qui finit bon dernier. Voilà. Qui partait pourtant 7e. C'est dommage. Il s'est. Alors j'ai lu un article. Je trouvais que le titre était intéressant. C'est il s'est noyé à Spa puisqu'il a tellement plu et au final il a voulu faire une stratégie à deux arrêts qui était un peu à contre-temps du reste et ça n'a pas payé.
Ça n'a pas payé. Donc il a fait la version contraire de ce qu'a fait Hamilton. Lui, il a dégringolé de 13 places alors que voilà. Ce qui est quand même notable, c'est que finalement, malgré cette météo difficile, tous les pilotes sont arrivés. Il n'y a pas eu d'abandon.
Oui, pas d'abandon, pas d'accident non plus.
Pas de voiture cassée.
Pas d'accrochage, rien. Donc ça faisait longtemps aussi que ce n'était pas arrivé.
On se retrouve au championnat du monde donc avec Oscar Piastri qui a 16 points d'avance sur Lando Norris. 266 sur 250 et quasi 81 points d'avance sur Verstappen qui est troisième. Donc on sait que le titre pilote va jouer entre les deux pilotes McLaren.
C'est ça, je maintiens mon pronostic de début de saison sur Norris quand même. On verra ce que ça donne. Et après McLaren en tant que constructeur a quasiment le double de points de Ferrari. Donc là pour aller les chercher,
oui,
ça va être impossible.
On n'a presque plus de questions à ce sujet sur le Grand Prix. Le prochain Grand Prix est en Hongrie le week-end prochain déjà,
oui.
Une semaine tout juste.
Et un Grand Prix sur une formule classique, il n'y a pas de course sprint, donc on aura comme d'habitude les essais, puis les qualifs, puis le Grand Prix.
Voilà, mais c'est aussi la période où on parle beaucoup dans le paddock de transfert.
C'est
de,
ça.
Ou de non-transfert.
C'est ça, on en parlait la dernière fois déjà un peu de Verstappen qui pourrait aller chez Mercedes. Ça ferait un peu le même effet que quand Hamilton va chez Ferrari, des transferts inattendue et assez énorme quand même. Verstappen qui se plaint de la voiture qui fonctionne pas, mais dans le même temps, il y avait des bisbilles un peu entre son père, Jos Verstappen, et Christian Horner, le manager de l'écurie. Mais Christian Horner a été débarqué justement à cause en partie de ça et quelques affaires extrasportives. Donc potentiellement, la direction de Red Bull a envoyé un message fort à Verstappen en lui disant que c'était lui la priorité, quoi.
Bon, on verra, les choses vont bien évidemment se décanter, les rumeurs vont aussi s'accentuer dans cette période.
Ça c'est sûr.
Même si on sait qu'il y a des endroits où ça devrait pas trop bouger, mais effectivement, une fois, il suffit d'un pilote qui bouge pour lancer le jeu de chaise musicale.
Oui, mais et encore une fois, quelle écurie se séparer d'un pilote à l'heure actuelle dans le trio tête, je vois pas d'écurie qui irait renvoyer un pilote pour faire une place à Verstappen, quoi.
Bah après, voilà, c'est une histoire de gros sous après.
Ah oui, là.
Donc tout est possible. Un petit mot aussi sur les petits jeunes, parce qu'on en parle pas souvent, mais Bortoleto qui continue d'apprendre, qui est 9e sur ce Grand Prix.
Oui, qui marque 2 points à noter, avec surtout qu'il a pas non plus une voiture de pointe, donc c'est qu'il a la vitesse. Il a la vitesse qu'il faut. En Grande-Bretagne, il n'avait pas scoré. En Autriche, il avait marqué des points aussi. Donc, c'est plutôt positif pour lui.
On a Biermann qui fait 11e, qui est juste après les points, mais qui est là quand même.
C'est ça. Et on a par contre un peu, entre guillemets, la déception du moment. C'est Antonelli qui laissait entrevoir de très très belles choses en début de saison et qui là rentre un peu plus dans le rang et a plus de difficultés sur les derniers Grands Prix.
Voilà, on a Nico Hülkenberg qui fait 12e, qui n'a pas confirmé sa 3e place du dernier Grand Prix.
Non.
Mais bon, presque sans surprise.
Oui, bah même lui, c'était le pilote qui avait couru le plus longtemps sans faire de podium au moment où il monte sur le podium. Donc,
Bon, voilà, donc au championnat du monde, si on continue à égrener après les trois premiers, on a un tir groupé des Français qui font 10, 11, 12. Ocon 27 points, Hadjar 22 points, Gasly 20 points. Donc ça score pas beaucoup, mais ça monte petit à petit malgré tout, et surtout ça aide l'écurie à chaque fois à se positionner pour pas être la dernière écurie du plateau.
C'est ça. Après les écuries, donc en Gasly qui est chez Alpine, ils ont que 20 points. As, eux, ils en ont 35, donc c'est déjà un peu
les 20 points marqués par Gasly, hein.
Oui, exact. Et donc Racing Bull Honda, la deuxième, l'écurie sœur de Red Bull, qui elle a 41 points, et pareil en partie marqué par Hadjar, bien que Lawson ait marqué quelques points aussi.
Ouais, 22 points pour Hadjar, 19 pour Lawson, donc ça se tient. Mais effectivement, voilà, ces pilotes français sont dans le ventre mou, mais ils sont là, ils font leur boulot. On aimerait voir un pilote français avec une top voiture.
Oui, ben pour l'instant, celui qui est le meilleur sur la grille, ce serait Gasly. S'il avait une top voiture, alors il en a eu l'occasion, mais dans l'écurie Red Bull, c'est quand même pas évident d'exister à côté de Verstappen et de Helmut Marko aussi, le propriétaire de l'écurie. Donc il en a vite fait les frais, et après bah, tous les autres derrière également. Mais pour moi, c'est celui qui a le plus de potentiel actuellement. Hadjar est encore en phase d'apprentissage, il est très jeune, donc il faut lui laisser le temps, ça sert de lui mettre une pression inutile.
Et pourtant, c'est celui dont on parle le plus dans les rumeurs pour rejoindre l'écurie Red Bull.
Ah, mais... Personnellement, je lui souhaite pas, c'est pour éviter de se griller comme tous les autres avant lui. Vaut mieux apprendre patiemment que tout de suite franchir le pas et se casser les dents.
C'est le discours que lui tient en tous les cas. Donc on verra bien ce que nous donnera cette période de transfert. Mais en tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, tout comme les résultats du prochain Grand Prix, donc en Hongrie, au Hungaroring, à Budapest. On va continuer avec vous, Riccardo Baroni. On va parler du Tour de France. Et donc, Tadej Pogacar qui remporte son 4e tour à peine 27 ans. Ça veut dire qu'il a potentiellement la place à en mettre encore quelques-uns dans son armoire à trophées.
Oui, surtout s'il en a envie, puisqu'à la fin de ce Tour de France, il était un petit peu, on va dire, il n'avait pas la niaque qu'il avait habituellement. Donc, c'est vrai, ça a espéré. Il ne faut pas oublier que les autres fois... il a fait deuxième, donc il a gagné 4 Tours de France, et les autres fois, ça veut dire 2 fois, il fait deuxième. Donc,
les 2 fois
c'est vrai
où Vingegaard gagne.
Tout à fait. Donc quand c'est Pogacar qui gagne, c'est Vingegaard qui fait deuxième, et quand c'est Vingegaard qui gagne, c'est Pogacar qui fait deuxième. Donc ce Tour de France, c'est vrai, il l'a gagné, il a très bien gagné, il nous a fait du spectacle le dernier jour. sur les Champs-Élysées, sur le parcours des JO, en faisant une super course à l'avant. Chose que n'a pas fait certains coureurs, qu'ils n'ont pas fait, pour la simple raison qu'à 50 km de l'arrivée, tous les temps étaient bloqués. Et donc, lui, il a quand même voulu essayer de gagner, parce que je pense que gagner sur le circuit des JO à Paris, quand on voit le monde qu'il y avait dans la montée de Montmartre, je pense que c'est quelque chose qui marque une carrière. Et donc, il a essayé de jouer la gagne sur cette étape, cette dernière étape.
Sachant que lui, il n'avait pas parcouru ce parcours des JO. Hein.
Il ne l'a pas fait, les JO. Il était un peu saturé, donc il ne les a pas fait. Je pense que là, il a eu quelques regrets en revoyant le monde et l'enthousiasme qu'il y avait sur cette course. Et donc, sur le Tour de France, je crois que c'est la première fois que je vois Tadej Pogacar se faire lâcher comme ça dans une montée. Maintenant, c'est vrai que c'est sur une étape, mais c'est deux coureurs tout à fait différents, puisque Wout van Aert, qui gagne cette étape, finit très très loin au classement général, tandis que lui a été aux avant-postes pendant tout ce Tour de France.
Pogacar a gagné 4 étapes quand même, c'est quand même pas rien. Et Vingegaard donc termine deuxième de ce Tour, mais il n'a jamais semblé en mesure de contrer Pogacar, finalement. Il l'a suivi longtemps, il a été dans sa roue un bon moment, mais Pogacar lui a montré plusieurs fois, en grignotant quelques secondes aux arrivées d'étape, que c'était lui le plus fort.
Oui, il n'y a qu'une fois où Vingegaard arrive devant Pogacar pour lui grignoter quelques secondes, sinon il est toujours arrivé derrière, et Pogacar lui a fait le final de l'étape pour lui montrer que c'était lui le patron et lui prendre quelques secondes. Mais bon, il avait déjà 4 minutes d'avance, donc la course pour jouer la gagne, l'équipe Visma Lease a Bike devait faire une attaque très très loin de l'arrivée pour essayer de lui grappiller au moins 2 minutes au départ et après lui créer, on va dire, un manque de stabilité au niveau tranquillité sur la course pour essayer de déstabiliser, lui remporter, lui le mettre en difficulté sur ce Tour de France et essayer de remporter Tadej Pogacar deuxième et essayer de remporter pour équilibrer les résultats entre Jonas et Vingegaard et Pogacar.
Bon, vous l'avez dit, c'est Wout van Aert qui a gagné donc, sur les Champs-Élysées, une victoire de prestige pour le Belge.
Une victoire méritée après tous les soucis qu'il a eu, soit sur le Tour de France, soit avant, avec des blessures, par exemple l'année dernière au Tour d'Espagne, à la Vuelta, où il est tombé. Donc ça fait plaisir de le voir. Il a gardé l'énergie qu'il fallait pour la dernière étape. Il a tout misé sur la dernière étape. Dans l'échappée finale, ils étaient deux de la même équipe. Donc, ils ont joué un jeu d'équipe. Mais bon, dans la montée de Montmartre, l'équipe n'était pas d'un grand aide. Et donc, c'est vraiment à la pédale que Wout van Aert a lâché Tadej Pogacar.
Alors, un petit mot sur les différents classements. On va commencer par le maillot vert, remporté par un Italien, Jonathan Milan, devant Pogacar.
Oui, puisqu'il y a des points aux arrivées au sommet. Pogacar a soit fait deuxième dans certaines étapes, soit a gagné. Donc déjà 4 victoires, ça fait beaucoup de points. Et il a terminé deuxième à, je regarde, 80 points de différence. Il faut savoir que Jonathan Milan faisait aussi les sprints intermédiaires qui sont en début d'étape. Et c'est ce qui lui a fait engranger des points supplémentaires. Moi, je le félicite d'avoir fini le Tour de France parce que les dernières étapes, ça a été des étapes très difficiles. Et toute l'équipe Lidl Trek était autour de Jonathan Milan qui n'est pas du tout un grimpeur, qui est un pistard, puisqu'il est recordman de l'heure, pas recordman de l'heure, recordman de poursuite sur les 4 km, recordman du monde. Et donc, c'est vrai que pour lui, les montées, c'est pas simple. Il a fini ce tour, bravo à lui et bravo pour ce maillot vert.
Le maillot à pois, c'est remporté par Pogacar devant Vingegaard.
Oui, tout à fait, ça fait 3 ans de suite qu'il gagne le maillot à pois. Donc quand on essaye de viser des étapes de montagne pour créer des écarts, automatiquement ça fait des points. Ce que je regrette, c'est que le Français Lenny Martinez n'a pas pu engranger beaucoup de points avant, puisqu'il y avait possibilité de mettre en difficulté Tadej Pogacar sur le maillot à pois, puisque la différence de points entre Lenny Martinez et Tadej Pogacar et que de 22 points, en sachant qu'au sommet d'un grand col, il y a 20 points ou à une arrivée, des fois il est même arrivé qu'il y ait 40 points.
Donc il y avait un coup à jouer pour Martinez qui n'a malheureusement pas joué. Le maillot blanc du meilleur jeune revient à Lipovic, troisième du tour.
Tout à fait, un Allemand hein, qui a été une surprise pour les non-connaisseurs, pour les connaisseurs. Il avait déjà fait troisième juste avant le Tour de France au Critérium du Dauphiné. Et donc, ça n'a pas été une grande, grande surprise. Il y a eu un duel pendant une certaine période sur ce Tour de France avec le coureur qui était troisième. Donc, il y avait très peu de secondes d'écart. Mais sur une étape, eh ben, l'écart s'est créé. Il a été beaucoup plus grand et il termine avec plus d'une minute d'avance sur le quatrième.
Le troisième de ce classement du meilleur jeune, c'est Kevin Vauclin, dont on va parler un petit peu après. On fera un bilan des Français, mais ce n'était pas non plus là où on l'attendait forcément.
Oui, tout à fait. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Pour moi, ça a été une grande surprise, une surprise qui m'a fait d'autant plus plaisir qu'il a terminé deuxième du Tour de Suisse. Mais on avait pu penser que c'était quelque chose d'exceptionnel qu'il fasse deuxième du Tour de Suisse. Ça n'a pas du tout été le cas. Il était sur une, on va dire, sur un élan positif, toute l'équipe aussi. Et donc, il a commencé le Tour de France en étant à un moment donné sur le podium. Donc Kevin Vauclin sur le podium, ça faisait plaisir. Mais ce qui l'a pénalisé, c'est qu'en étant classé au classement général, il ne pouvait pas jouer les étapes et essayer de gagner une étape.
Allez, on va justement continuer à égrener les résultats des Français. Vous en avez sélectionné 5, donc on vient de parler de Kevin Vauclin. Je vous laisse annoncer les 4 autres.
Oui, moi je mettrais Valentin Paré-Peintre hein, qui gagne au sommet du Mont Ventoux. C'est quand même une arrivée mythique et qui mérite d'être signalée, de dire voilà, c'est fantastique, au moins un Français. Parce que ce qui me surprend toujours, c'est que dès le début du Tour de France, on demande qu'on sait qu'un Français va gagner une étape. Là, il l'a gagné et puis il n'a pas gagné une étape quelconque. Il a gagné une étape mythique.
Celle qu'il fallait gagner.
Tout à fait, c'est un grimpeur. Il pèse 50 kilos, donc voilà, ça a été vraiment, et en plus une très belle victoire au sommet, chose qui a été appréciée par les spécialistes, et des coureurs qui gagnent au sommet du Mont Ventoux restent dans les annales du cyclisme.
On continue.
Je mets le coureur français qui a fait dixième de ce Tour de France à 32 minutes, Jordan Gegat, c'est très bien, il a fini dixième parce qu'il a réussi à rentrer dans des échappées qui lui ont permis de se repositionner au classement général. Aucune comparaison avec Kevin Vauclin, qui a toujours joué avec les plus forts. Il a joué devant, avec les meilleurs. Tandis que Jordan Gegat, lui, s'est faufilé, on va dire ça comme ça, pour essayer de terminer dans les 10 premiers, puisque c'est quand même un résultat très important pour un Français.
Le suivant, Lenny Martinez.
Lenny Martinez, on vient d'en parler, c'est maillot à poids. Il a été longtemps maillot à poids et moi j'espérais qu'il termine maillot à poids de ce Tour de France puisque son grand-père l'a gagné il y a quelques années, donc ça m'aurait fait plaisir. Après, malheureusement, il y a deux autres grimpeurs qui jouaient les arrivées au sommet qui sont donc Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et donc lui, il termine troisième de ce classement au point. Le dernier coureur que je voudrais parler et qui fait toujours plaisir, c'est Julien Alaphilippe, qui termine troisième à Carcassonne et qui a pensé avoir gagné. Malheureusement, il y avait deux autres coureurs qui étaient devant et il finit troisième juste à côté de Wout Van Aert. Et je regrette qu'il n'ait pas cette possibilité encore d'être le Julien Alaphilippe d'il y a quelques années, parce que je pense que le parcours de cette nuit, donc le parcours sur le circuit, une partie du circuit des JO, était tout à fait pour lui et ça m'aurait plu de le voir au moins finir dans les trois premiers.
Est-ce que dans les 5 que vous venez de citer, vous imaginez qu'à horizon de 3 ans, il y en ait un qui puisse gagner le Tour ?
L'unique qui peut viser un podium, le Tour, le gagner, ça va être très compliqué, mais au moins viser le podium, je vois que Kevin Vauclin. Lenny Martinez gagne une très belle étape, il n'y a pas de problème. Valentin Paré-Peintre, il a été engagé dans l'équipe Soudal pour aider Remco Evenepoel. Remco a été un petit peu ma déception sur ce Tour de France puisqu'il a abandonné et que l'année dernière il avait fini troisième et qu'il a gagné le contre-la-montre à Caen devant Tadej Pogacar. Donc ça va être difficile pour lui de viser le podium sur un Tour de France. En sachant qu'un Tour de France, c'est pendant 3 semaines qu'il faut être aux avant-postes et c'est pas si facile que ça. Kevin Vauclin a été toujours présent dans les premiers, il s'est fait lâcher dans les grandes étapes de col, mais il est revenu après, donc je pense qu'il y a une évolution particulière pour ce coureur. Je pense que c'est un des meilleurs espoirs français. Maintenant, va-t-il rester dans l'équipe Arkéa ou va-t-il changer d'équipe, d'aller dans une autre équipe, puisqu'on ne sait même pas si l'année prochaine, cette équipe existera encore.
Bon, un fer à suivre. On a vu une... On a parlé un peu la semaine dernière, une mainmise de l'équipe UAE sur ce tour. On avait dit que ce n'était pas trop cadenassé, mais finalement, on voyait bien que sur les deux premières semaines, UAE distribuait les bons de sortie au compte-gouttes et qu'ils ont été un peu plus gentils, on va dire, laxiste. Ou laxistes sur la dernière semaine.
Il y a eu une campagne de presse sur les médias en disant que c'était des gloutons. Il y avait des médias qui disaient que Tadej Pogacar allait gagner 8 étapes. C'est vrai que ça crée un problème au niveau du Tour de France. Moi, j'ai des retours, par exemple, du Tour d'Italie de l'année dernière de Tadej Pogacar, où on parlait que de lui et qu'il a gagné 6 étapes. Les autres sponsors se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur un Tour de France, donc? Indirectement, on a perdu un peu de spectacle, mais ça nous a permis de voir des coureurs à l'attaque et d'autres résultats qu'on s'y attendait pas. Par exemple, au sommet du Mont Ventoux, si Tadej Pogacar avait décidé de gagner cette étape, je pense qu'il était difficile qu'il la rate. Donc ça a été bien. Moi, je trouve qu'il s'est calmé il a été moins glouton, il a donné d'autres possibilités à d'autres équipes de gagner. Et puis, c'est par exemple l'arrivée au sommet d'O'Connor pour l'équipe Jayco Alula, qu'on n'avait même pas parlé durant le Tour de France. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir à d'autres équipes, et au moins, ils ont eu un retour de communication et fait plaisir à leurs sponsors.
Et malgré la mainmise de l'UAE sur ce tour, c'est quand même la Visma qui remporte le classement par équipe.
C'est ça, ils remportent le classement par équipe. Il faut savoir qu'ils avaient un coureur très fort chez UAE qui était João d'Almeida, qui malheureusement est tombé et a dû abandonner. Je pense que si lui avait pu continuer, il faut savoir que l'année dernière, il fait quatrième du Tour de France. Donc je pense que l'équipe UAE aurait été au-dessus de l'équipe Visma Lise Bike. Mais bon, l'équipe Visma Lise Bike est une équipe très complète. Et je pense que c'est très bien qu'il soit sur le podium du classement par équipe. Comme ça, il y en a un petit peu, on va dire, pour tout le monde. Et avec la victoire du dernier jour de Wout van Aert, ça a donné du spectacle sur la ligne d'arrivée.
Un petit mot sur le Tour de France féminin qui a débuté samedi. Il y a déjà eu deux étapes.
Oui, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont attendu l'arrivée de l'étape du Tour de France homme pour démarrer l'étape du Tour féminin. On a eu déjà du spectacle avec la Française Pauline Ferrand-Prévot qui fait une super première étape. On a même pensé à un moment donné qu'elle allait prendre le maillot jaune du premier jour. Ça a été son équipière, Marianne Vos, qui a pris le maillot. Et cette nuit, on a eu une Espagnole de 41 ans où ils ont commencé à se regarder derrière pour savoir qui allait gagner, qui n'allait pas gagner. Et en fin de compte, eh ben, c'est elle qui gagne. Donc on a le droit encore à du spectacle. Il faut savoir que ce Tour de France féminin dure une semaine.
9 étapes exactement.
Tout à fait, organisé par Marion Rousse, qu'on a eu le plaisir de côtoyer en Nouvelle-Calédonie, et qui est une ancienne championne de France de cyclisme féminin. Donc elle sait organiser cette course et c'est très agréable à regarder.
Un parcours qui va traverser la France d'ouest en est.
Oui, tout à fait. On appelle ça Tour de France, mais Tour de France, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de Tour de France. En une semaine, ils iraient plus vite que les hommes. Donc je pense que c'est difficile de réaliser. Mais la dernière étape est une étape avec une montée finale très importante. Il y a une équipe qui vise la gagne, une équipe française, de la Française des Jeux, qui ont engagé une nouvelle compétitrice qui l'année dernière a perdu le Tour de France pour 4 secondes. Donc je pense qu'on va avoir quelque chose de très intéressant à voir cette semaine.
Sachant que Pauline Ferrand-Prévot en a fait son objectif numéro 1 de la saison aussi, hein.
Oui, c'est vrai. Après avoir gagné Paris-Roubaix, on a fait son objectif. Au départ, on l'a vu, elle est très, très maigre. Je pense que dans l'école, on va la voir devant. Et qui sait, peut-être une Française gagner le Tour de France.
Ricardo, merci pour cette page cyclisme très complète. Et on se retrouve tout de suite après une page de pub.
RRB, la pub. Écoute, il y a un jeu avec les Team Tam jusqu'au 31 août. Tu scannes le petit code dans magasin, tu joues au mini-jeu, faut retrouver la balle sous un des trois gobelets, et si tu gagnes, t'es inscrit direct au tirage au sort. Chaque lundi, il y a un gagnant. Il y a des lots fins valables à gagner. Switch, télé, trottinette et même une voiturette. Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84. RRB pour être au cœur de l'actualité.
17h32, la suite de votre semaine formidable avec Olivier Ledin.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
On continue cette émission formidable avec les brefs de la semaine. Et donc, on va commencer par du tennis avec Arthur Cazot, qu'on connaît bien en Calédonie, qui est fier de faire finaliste du tournoi de Kitzbühel en Autriche. Il s'est incliné face à l'homme en forme du moment, Bublik, 6-4, 6-3. Belle perf, Grégory Sierg.
Oui, ben, c'est toujours bien quand on a un Français qui gagne des matchs, donc on va s'en satisfaire. Hein.
C'est ça, une finale sur terre battue. Alors c'est pas le circuit de préparation pour l'US Open qui aura lieu fin août, mais en tout cas ça fait toujours du bien de voir des Français en finale. C'était un ATP 250 et donc il va se rapprocher gentiment de la 60e place qui va bientôt être son meilleur classement à Arthur Cazot. On a un autre Français qui a brillé la semaine dernière, c'est Corentin Moutet, qui a lui eu une belle semaine du côté de Washington, en s'inclinant en demi-finale face à l'Australien Demi-Nord, après avoir battu en quart de finale le Daniil Medvedev. Ricardo ?
Oui, j'ai regardé des images et un petit bout de ce match. J'étais très surpris à la fin du match que Medvedev s'énerve pour avoir perdu ce match en cassant sa raquette, en tapant sur certains objets qui étaient autour du terrain. C'est un peu dommage d'avoir cette image, surtout que ça faisait plaisir de voir qu'un Français gagne devant un grand joueur comme Medvedev.
Beaucoup de frustration du côté de Medvedev. La balle de match, si vous avez l'occasion de la regarder, était magnifique, extrêmement spectaculaire, comme souvent d'ailleurs avec Corentin Moutet. Et je pense que ça a contribué à la frustration du joueur russe. C'est Demi-Nord qui ensuite s'est imposé dans ce tournoi ce matin face à l'Espagnol Davidovich Fokina, 7-6 au troisième set après un match très très disputé où on a vu Davidovich Fokina très abattu à la fin du match, vraiment très déçu de la défaite en finale. Mais en tout cas, beau tournoi aussi, donc on les attend tous les deux dans trois semaines à l'US Open, puisque là c'était sur dur en l'occurrence, c'est le début du circuit américain. Le premier Masters 1000 de tennis toujours aura lieu, a commencé ce matin à Toronto au Canada, et alors là c'est plus la même musique cette semaine pour les Français. Un seul sur les sept engagés à s'est imposé, c'est Giovanni Impecci-Pericard qui a battu d'ailleurs Mochizuki, le vainqueur du Challenger de Nouméa au mois de janvier en premier tour. Tous les autres se sont inclinés. Et on va avoir un Masters 1000 de Toronto très ouvert, puisque ni Sinner, ni Alcaraz, ni Djokovic, ni Draper ne seront présents ces 10 jours à Toronto. Donc on risque d'avoir un vainqueur surprise.
Pourquoi tous ces joueurs ne sont pas présents à Toronto? Je pose la question à un spécialiste du tennis.
Soit blessés, soit au repos, avec des saisons qui sont de plus en plus longues et de plus en plus éprouvantes. Et Sinner et Djokovic, Draper est blessé. Sinner et Djokovic ont annoncé assez tôt leur retrait de ce tournoi. Et Alcaraz l'a annoncé un peu plus tardivement. Mais j'imagine aussi que pour les organisateurs, c'est assez difficile. Le Masters 1000, c'est ce qui se fait de mieux après les tournées du Grand Chelem au niveau tennis, c'est de voir que quasiment les quatre premiers mondiaux ou les quatre plus gros pourvoyeurs de public aussi ne seront pas là. Ça doit être un petit peu difficile.
Ça doit être surtout difficile pour l'organisateur et de faire rentrer du monde lors d'un tournoi comme ça. Olivier, en tant qu'organisateur depuis de longues années de l'international de Nouméa, je pense que vous devez savoir et connaître cela.
Ben c'est jamais plaisant, bien évidemment. C'est comme quand on a nos têtes de série qui disparaissent dès les premiers tours. On a envie de les garder le plus longtemps possible. On sait que ça fait venir du public. Mais voilà, ça va rester à Toronto un très bon Masters 1000. Et on va justement voir des outsiders, voir où ils en sont et qui va justement être en capacité de peut-être jouer les troubles faits à l'US Open d'ici 3 semaines. On va passer au football maintenant. C'était la finale de l'Euro féminin hier matin et les Anglaises ont renoué avec la victoire. Elles se sont imposées au tir au but face aux Espagnols, difficilement, un partout à la fin du temps réglementaire.
Les Espagnols qui sont championnes du monde en titre, excusez du peu quand même, voilà. Et qui avaient déroulé lors de la Coupe du Monde, donc c'est quand même
une grosse perf,
et elles conservent leur titre également. Donc double perf pour elle.
Voilà, c'est vraiment les deux nations européennes qui sortent du lot depuis plusieurs années. Si on continue à parler football, on peut parler du retour de Paul Pogba à Monaco.
Eh ben, ça fait très plaisir pour lui. Alors ça, il va découvrir la Ligue 1 puisque il est parti très jeune à Manchester, donc il a jamais joué en Ligue 1 et il sort d'une fin douloureuse, on va appeler ça comme ça, avec la Juventus Turin où il a été accusé de dopage, etc. Il n'a pas pu s'entraîner, je crois, depuis 18 mois.
Il a été suspendu.
Voilà. Il a été suspendu, donc il n'a joué aucun match. Et là, il est actuellement en phase de réathlétisation. Donc, de ce que j'avais lu, il n'a pas encore touché un seul ballon. Mais ça fait plaisir de voir un joueur français d'expérience qui était un cadre de notre dernier titre mondial retrouver les terrains.
Ricardo.
Oui, il n'a pas joué depuis longtemps, pas parce qu'il a été positif au contrôle antidopage, simplement qu'il s'était blessé en jouant avec la Juventus de Turin. Et après, il a mis du temps à se reconstruire. Et pendant cette période, il a fait certaines choses qui font que la Juventus de Turin s'en est séparée. Et j'espère qu'il montre aux Italiens qu'il est capable d'être encore le grand joueur qu'il a été au Manchester.
Pari osé du côté de Monaco, mais ça peut être un pari gagnant.
Deux paris, puisqu'il y a Pogba et il y a Ansu Fati également qui était en souffrance à Barcelone et qu'on présentait comme un grand espoir au début, donc à surveiller de près.
On a un autre international français qui revient en Ligue 1, c'est Olivier Giroud du côté de Lille.
Oui.
Une réaction à ce retour, Ricardo ?
Un grand buteur de l'équipe nationale de France. Je ne pense pas qu'il revient en France pour de nouveau jouer dans l'équipe nationale, mais je pense qu'il peut apporter son expérience après avoir quitté les États-Unis pour revenir en France. Ça fait toujours plaisir de voir qu'un joueur de haut niveau revienne dans son pays pour apporter son expérience à une équipe.
C'est ça, il fait un peu le chemin inverse des fins de carrière. Il est parti dans un championnat dit exotique pour revenir ensuite en Europe, alors qu'en général c'est l'inverse.
Et il pourrait être d'une grande utilité au LOSC, notamment en Coupe d'Europe, où il amènerait son expérience des grands rendez-vous et des grands matchs. Un dernier mot de football, on va parler de Gianluigi Donnarumma, qui serait sur le départ du Paris Saint-Germain. Ricardo ?
Oui, puisque l'entraîneur a pris contact avec le gardien français, Chevalier, je crois.
C'est ça, c'est le gardien lillois, justement.
Donc je pense que soit il a pris contact parce qu'il en a vraiment envie de le recruter, en sachant que Donnarumma, ce n'est pas lui qui l'a recruté, il est arrivé, il était déjà en place. Soit c'est pour faire comprendre à Donnarumma qu'au niveau de ses exigences, il faut qu'il soit plus conciliant.
Alors le PSG, pour développer un tout petit peu, le PSG met en place une politique de rémunération différente de celle qui existait jusqu'à présent, avec un salaire fixe qui serait à la baisse pour la plupart des joueurs, et des primes au résultat. Et donc c'est là-dessus où pour l'instant le ça coince entre Donnarumma et le PSG.
Moi, j'avais regardé un article, il me semblait que c'était des primes au match joué et non au match gagné.
Là, pour l'instant,
gagné,
c'est sur le fixe que ça achoppe. Il est à plus de 800 000 euros mensuels et il faudrait qu'il passe à 600, 650 et c'est là que ça coince.
Et ils viennent aussi, il me semble, de recruter un gardien, Paris, joueur de la Roma.
Gardien numéro 3 ou 4, ouais.
Donc, du coup, ça fait encore un gardien. Il me semble qu'ils en sont à 5 ou 6 gardiens au PSG. Ça commence à faire beaucoup, quand même.
Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, voir si Donnarumma, qui est quand même l'un des artisans du titre de champion d'Europe pour le PSG, va rester ou pas. Mais si on arrive à la fin de cette émission, c'est l'heure de vos coups de cœur, Grégory Sien, qu'on va commenter par vous. Alors, comme d'habitude, coup de cœur ou coup de griffe.
Moi, un coup de cœur très facile pour la très belle organisation du rallye de Nessadiou qui s'est déroulé ce samedi, donc à Nessadiou sur la propriété Boufnèche. Une très très belle spéciale, une très belle organisation, du beau spectacle de la part des concurrents. Et surtout, saluer une fois de plus, mais ça vaut pour tous les sports, tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que les événements se déroulent bien en Calédonie. Donc un grand coup de cœur à eux.
Vous le rappelez régulièrement, mais vous avez raison, c'est bien de le rappeler. Sans bénévoles, il n'y a pas de sport. Ricardo ?
Mon coup de cœur est pour Gianni Moisson, un mécanicien que beaucoup de cyclistes connaissent en Nouvelle-Calédonie, qui s'est fait percuter par un véhicule et qui maintenant est alité. Hier soir, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles et puis il avait pronostiqué Wout van Aert. Donc, mes félicitations et bon rétablissement.
Bon, eh bien, on lui souhaite à tous un bon rétablissement et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sportive. Messieurs, merci de m'avoir accompagné ce soir.